Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment devant la Cour suprême ce mardi pour un second mandat à la tête du pays. Lors d'une cérémonie au Palais de la Culture de Bamako, retransmise en direct sur la télévision publique. La Cour constitutionnelle l'avait proclamé le 20 août vainqueur de la présidentielle avec 67,16% des suffrages au second tour du 12 août pour 32,84% à l'ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé. Dans un communiqué lundi, M. Cissé, qui n'a pas reconnu sa défaite, a appelé les Maliens à une mobilisation pacifique et non violente pour défendre leurs droits démocratiques ce mardi après-midi. Le leader d'opposition et ses partisans organisent des marches de protestation tous les week-ends depuis l'annonce des résultats définitifs de la présidentielle. Mali toujours, un casque bleu a été blessé aujourd'hui par des tirs d'obus sur un camp de la mission de l'ONU à Ménaka, dans le nord du pays. L'attaque a eu lieu avant la prestation de serment du président Ibrahim Boubacar Keïta pour un second mandat, où sa tâche prioritaire sera de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. La mise en œuvre de cet accord accumule les contretemps et n'a pas empêché la violence de se propager du nord vers le centre du pays et aussi vers le Burkina Faso et le Niger voisin. Nigeria, un des candidats à la primaire de l'opposition nigériane Atiku Abubakar, a déclaré avoir des craintes pour les prochaines élections générales prévues en février 2019. Désormais, nous avons affaire à un ancien général intransigeant et ivre de pouvoir, a affirmé le candidat de 71 ans qui a construit une immense fortune, notamment dans les transports d'import-export. Il a fait cette déclaration à la presse lundi soir. Élection en République démocratique du Congo maintenant. L'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba, dont l'exclusion de l'élection présidentielle en RDC a été confirmée lundi soir par la Cour constitutionnelle, a dénoncé aujourd'hui ce qu'il appelle une parodie d'élection. C'est très inquiétant, au-delà même de ma personne, le fait que l'on choisisse des opposants, a déclaré l'ancien vice-président, investi par le parti d'opposition MLC au scrutin du 23 décembre, qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. Monsieur Bemba a accusé la Cour constitutionnelle congolaise d'être aux ordres du pouvoir en place et d'agir pour que le candidat de la majorité présidentielle puisse ne pas avoir de rival sérieux devant lui. Les juges de la Cour constitutionnelle ont donc validé la décision de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui avait rejeté la candidature de Jean-Pierre Bemba suite à sa condamnation à la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. L'ancien Premier ministre congolais, Adolphe Mounzito, a lui aussi été définitivement écarté de la course à la présidence. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Recalé par la CENI le mois dernier, la candidature de Jean-Pierre Bemba n'a pas pu être repêchée par la Cour constitutionnelle, instance habilitée à gérer les contentieux électoraux. La Cour a, comme la Commission électorale nationale indépendante, estimé que la subornation des témoins pour laquelle l'ancien vice-président de la RDC a été condamné par la Cour pénale internationale est une forme de corruption. Sa requête a donc été jugée recevable mais non fondée. Définitivement écarté de la course à la magistrature suprême également, l'ancien Premier ministre Adolphe Mounzito, suite à un conflit avec le parti Lumumbiste Unifié dont il était encore député national selon la Cour au moment du dépôt de sa candidature. Par contre, Sami Badibanga et Madame Marie-Josée Ifoku, recalés par la Commission électorale nationale indépendante pour détention des nationalités étrangères, ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle et seront bien candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Bassin du lac Tchad, plusieurs pays et organisations internationales ont promis 2 milliards 170 millions d'euros d'aide de développement aux pays de cette région. C'était lundi à Berlin en Allemagne, lors de la deuxième conférence des donateurs pour le bassin du lac Tchad, où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Les précisions avec Irénée Herman Ongbo.
Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, organisateur de la conférence, les fonds seront mis à la disposition des pays concernés au cours des prochaines années. En plus des 2,17 milliards de dollars, plusieurs banques d'aide au développement ont promis de débloquer 467 millions de dollars de prêts à taux bonifiés. L'Allemagne a annoncé de son côté une enveloppe supplémentaire de 100 millions d'euros d'aide humanitaire d'ici à 2020, ainsi que 40 millions d'euros de fonds dits de prévention et de stabilisation pour le bassin. Les fonds annoncés sont nettement supérieurs à ceux qui étaient sortis de la précédente conférence sur le bassin du lac Tchad. À Oslo l'an dernier, des contributions à hauteur de 672 millions de dollars y avaient été annoncées en deçà des demandes exprimées qui s'élevaient à 1,5 milliard de dollars. En amont de la réunion de Berlin, une dizaine d'ONG actives dans le bassin du lac Tchad ont chiffré la semaine dernière à 11 millions le nombre de personnes ayant un besoin d'aide humanitaire d'urgence dans cette région.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
7e forum à Pékin sur la coopération Chine-Afrique. Le président Xi Jinping a promis lundi 60 milliards de dollars au continent africain. L'engagement du chef de l'État chinois est intervenu au début de ce sommet, auquel participent pendant 2 jours les dirigeants de 53 pays africains. Pour analyse, Eric Manira Kiza a joint à Dakar l'économiste auprès de l'Open Society West Africa, Ibrahima Aïdara.
Ça devient comme une tradition entre la Chine et les pays africains de se rencontrer périodiquement pour discuter de leurs accords de coopération. Si c'est bien géré, il se pourrait qu'il y ait des retombées positives. Déjà, des pays ont signé des contrats bien avant la réunion. Donc, en termes de contrat et de partenariat, ça peut être une opportunité. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'il faut utiliser cette opportunité-là pour effectivement transformer son économie, transformer son développement pour le bénéfice de ses populations.
Entre 2000 et 2016, la Chine a prêté à l'Afrique 125 milliards de dollars, mais on ne voit pas d'impact.
Ça, c'est une question très importante. Étant entendu que bien avant la Chine, l'Afrique a importé beaucoup de ressources étrangères pour financer son développement. Malheureusement, cet endettement massif n'a pas effectivement permis de générer une croissance économique durable, de façon plus importante, une réduction significative de la pauvreté et des inégalités. Et donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, si les pays africains, dans la perspective de diversifier leur partenariat, ou en tout cas de trouver en la Chine un nouveau partenaire qui pourra injecter de nouvelles ressources, sans pour autant prendre les dispositions pour bien identifier les projets prioritaires qui puissent générer la croissance et réduire la pauvreté, je pense qu'on va vers, disons, les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la croissance, on ne va pas avoir, déjà, les rapports indiquent qu'il y a la croissance qui arrive, mais on ne va pas avoir une réduction significative de la pauvreté et des inégalités, et on va rentrer dans une nouvelle strate de la dette.
Est-ce que les investissements chinois peuvent être un cadeau empoisonné?
Je pense que les dirigeants actuels africains trouvent un certain confort dans les investissements et les prêts chinois comparés à d'autres types de prêts qui sont assujettis à des conditionnalités, surtout en matière de gouvernance et des droits humains. Et effectivement, si au niveau africain, il n'y a pas un mécanisme de gouvernance vertueux, il n'y a pas une demande de redevabilité et de transparence, ça peut conduire, comme je l'ai dit, aux mêmes effets, c'est-à-dire un endettement massif appauvrissant et qui crée des inégalités. Pour reprendre votre terme, ça peut être un cadeau empoisonné.
Il y a aussi le FMI qui a émis des craintes sur l'accumulation de l'endettement.
Oui, je pense que c'est tout à fait justifié, puisque par rapport à notre capacité, on est en train de dépasser les limites. Beaucoup d'économies aujourd'hui, malgré l'effacement de la dette qu'on a eu dans les années 2000, sont en train de s'endetter non seulement de façon rapide, mais sur des marchés financiers dont les conditionnalités sont beaucoup plus encore difficiles à remplir pour les économies africaines. Et donc, je pense que le FMI a bien raison à ce niveau-là de tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, vous êtes en train d'arriver à un niveau insoutenable d'endettement par rapport à la capacité de vos économies.
Ibrahima Aïdara, économiste auprès de l'Open Society West Africa. Il était au micro d'Eric Manirakiza. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.